Buongiorno.
Vous aimez le cinéma?
Beaucoup.
Cinérama.
Qu'est-ce que c'est?
Chaque semaine, chronique, interview et blind test.
Ça te satisfait?
Intensément.
J'aime bien discuter des films, vous voyez, et échanger des critiques.
Cela ne peut que nous réunir.
This is Cinérama.
Prenez le chemin habituel, la radio.
Bien, ouvre tes oreilles.
Vous lisez les critiques, monsieur?
Non mais bon, de toute façon, ce film est une catastrophe.
Je croyais que j'avais affaire à un expert.
Un très beau film.
Ça fait toujours plaisir à entendre.
On n'est rien à foutre, mais c'est un très beau film.
Je tombe des nues.
Bonjour et bienvenue, c'est l'émission Cinérama, une émission consacrée évidemment au cinéma avec des chroniques. Bonjour Manu.
Bonjour Vincent.
Et notamment deux chroniques de ta part.
Oui, d'un film culte qui ressort enfin, La maman et la putain de Jean Eustache et puis La ruche.
Quant à Guillaume, il nous parlera de La chanson-souris à Madame Nikuko, c'est un film d'animation japonais. Et puis, il nous parlera aussi du dernier film de dinosaures, Jurassic World. Ça nous donnera l'occasion de jouer un blind test spécial monstre, un peu comme la voix que j'ai aujourd'hui, des monstres qui viennent attaquer les hommes. Et puis, nous allons commencer cette émission avec Compétition officielle, un film avec Penélope Cruz et Antonio Banderas qui sont dans une comédie.
J'entends beaucoup parler de votre travail.
Cinérama.
On s'en passera aisément.
La compétition officielle, c'est celle qui va avoir lieu entre les personnages interprétés par Antonio Banderas et Oscar Martinez, deux comédiens bien différents. L'un est chéri par le grand public pour ses films mainstream. L'autre est un comédien de théâtre qui se retrouve pour préparer un film justement intitulé Rivalité. Cette compétition entre eux va être soigneusement entretenue par la réalisatrice du film, interprétée par Penélope Cruz, une réalisatrice abusive mais très en vogue et qui a même, et c'est là où l'on se dit que l'on est vraiment dans une fiction, qui a même gagné une palme d'or.
Financiar una película con los mejores.
Le film, réalisé par Gaston Duprat et Mariano Cohn, un duo de réalisateurs argentins assez peu connus chez nous, a été écrit en partie avec ses interprètes, ce qui lui confère un certain niveau d'autodérision. Pas mal d'anecdotes réelles ont été ajoutées au scénario. L'interprétation sent le vécu et on voit que les comédiens s'en donnent à cœur joie dans un exercice de démolition du métier qui est autant jubilatoire pour eux que pour nous. Ce qui est intéressant dans Compétition officielle, en plus de son aspect méta, qui filme donc un film dans le film, c'est que l'on s'intéresse non pas réellement au tournage, mais à sa préparation, et donc principalement aux répétitions du film, au moment où le film n'est encore finalement qu'une pièce de théâtre, au moment où il en est encore à un stade artisanal. Ainsi, on parle davantage du jeu des acteurs que d'images ou de techniques, et des plans fixes et larges capturent l'affrontement entre les comédiens qui répètent dans une immense villa vide, décor hautement symbolique. Il y a également, en plus d'une réflexion satirique sur la création et sur l'art, de vrais moments très inspirés de poésie, de travail sur le son, entre autres, ce qui est plutôt peu fréquent dans les comédies qui vont avoir tendance à délaisser la créativité visuelle et sonore au profit de dialogues bien sentis. Et puis, Compétition officielle, c'est la rencontre, enfin, de Penélope Cruz et Antonio Banderas, qui, même s'ils ont été chacun les muses de Pedro Almodovar, l'ont été à des époques différentes et n'ont presque jamais joué ensemble, puisque dans Douleur et Gloire, ils n'apparaissent pas dans les mêmes scènes et ils ont simplement partagé un très petit bout du film, Les Amants Passagers. Si Antonio Banderas et Oscar Suarez sont impeccables, l'actrice espagnole, elle, vole tout, avec une performance très extravagante à laquelle elle arrive malgré tout à donner dimension humaine. Penélope Cruz, c'est environ 70 films en 30 ans et finalement assez peu de comédies. Ici, elle s'en donne à cœur joie et on réalise par ailleurs que son jeu peut être assez proche de celui de Marilyn Monroe, avec un phrasé très articulé et un écarquillement des yeux permanent qui la rendent tout simplement magnétique. Il en devient presque compliqué de suivre les sous-titres lorsque l'actrice est ici à l'écran. Si la bonne idée, bien sûr, est de féminiser le personnage du metteur en scène, de toute façon, pas sûr qu'un film sur un réalisateur qui tyrannise deux actrices soit considéré comme drôle à notre époque post-MeToo. On ne peut quand même s'empêcher de regretter que ce personnage excessif et sadique soit forcément une lesbienne qui a du poil sous les bras, sachant que ces deux éléments sont censés être des éléments comiques. néanmoins tout le monde ici, du producteur milliardaire au comédien égocentrique, en passant par la femme très bobo du comédien de théâtre, tout le monde en prend pour son grade, ce qui préserve le film de toute accusation d'humour oppressif et heureusement. Cette critique très très grinçante de l'art contemporain fait beaucoup penser au cinéma du récemment palmé Ruben Östlund, avec sans doute un côté plus grand public, et c'est tant mieux. Et même si le film fait preuve d'un humour plus outrageusement noir, il réussit malgré tout à demeurer une vraie déclaration d'amour au cinéma, ce qui est un tour de force.
Compétition officielle est dans les salles depuis le 8 juin. Le film a réuni 342 000 spectateurs en 1973 quand il est sorti. Nous reparlons de La maman et la putain de Jean Eustache puisqu'il ressort sur les écrans.
J'ai des exos pour les meilleurs films qu'on passe en ville.
Cinérama, parfait, judicieux, simple et logique.
Si un seul événement cinématographique devait peut-être marquer cette année 2022, hein, loin d'être terminé bien sûr, ce serait sans nul doute la ressortie dans une copie restaurée 4K de La maman et la putain, objet de vénération auprès de nombreux cinéphiles et pur fantasme pour ceux qui ne l'ont jamais vu. Depuis sa sortie en 1973, le film était devenu rare, diffusé une seule fois sur Arte il y a à peu près 10 ans. Et le film sort enfin sur les écrans, donc ce 8 juin, écrasé par sa réputation presque sacralisée. Ensuite, la personnalité aussi de Jean Eustache, hein, a largement contribué au culte dont jouit le film. Pourtant, sa filmographie ne contient que deux longs métrages de fiction, celui qui nous concerne et Les Petites Amoureuses. Sinon, que faut-il retenir? Des courts métrages, un moyen métrage, Le Père Noël a les yeux bleus, et des documentaires comme Numéro Zéro et Une salle à faire. Il préparait d'ailleurs une suite à La maman et la putain, mais il s'est suicidé d'une balle dans le cœur le 3 novembre 81. Alors, La maman et la putain, c'est quoi? Ceux qui s'attendent à une œuvre post-68art libertaire peuvent passer leur chemin. Le personnage incarné par Jean-Pierre Léo, qui s'appelle Alexandre, n'est ni le double d'Antoine Doinel, ni le gauchiste universitaire qui entrait des lieux symboliques avec des slogans révolutionnaires. Non, il s'agit d'une sorte de dandy, un peu réac et anarchiste en même temps, affichant des postures traditionnalistes et antiféministes. Ce personnage narcissique et un peu méprisable au fond, autant que méprisant d'ailleurs, véhicule un dégoût de soi. Il a aussi un côté punk décadent, pratiquant un humour décapant. Rarement Léo d'ailleurs a été aussi drôle. Eustache, en bon masochiste, dresse une sorte d'autoportrait peu flatteur quitte à provoquer certaines réactions épidermiques. Avec une grille de lecture contemporaine et peut-être superficielle, le film peut passer pour un manifeste individualiste véhiculant peut-être des valeurs de droite. Mais le film est insaisissable, complexe, il souffle le chaud et le froid. La posture d'Alexandre n'est pas si simple, c'est une sorte de provocateur des temps modernes, un nihiliste comme ont pu l'être certains poètes ou écrivains ou certaines icônes du rock. La maman et la putain a fini par dépasser d'ailleurs le cadre de la cinéphilie pour acquérir une importance dans le milieu rock indépendant, punk et noise d'ailleurs, à l'image d'un morceau de Diabologum reprenant le long monologue final de Françoise Lebrun. Et on en écoute un extrait.
Que je vous aime. Regardez, je commence à être saoulée, je bégaye. Et c'est absolument horrible parce que ce que je dis, je le pense réellement. Mais je dois rester tout le temps avec vous. Tellement je me sens heureuse. Je me sens aimée par vous deux. Qui me regarde avec ses yeux en couille de mythe, d'un air sournois en pensant « Oui, ma petite, tu peux toujours poser, mais je t'aurai. » Je vous en prie, Alexandre, je joue pas la comédie, mais qu'est-ce que vous croyez? Pour moi, il n'y a pas de pute. Pour moi, une fille qui s'est baisée par n'importe qui s'est baisée n'importe comment n'est pas une pute. Pour moi, il n'y a pas de pute, c'est tout. Tu peux sucer n'importe qui et faire baiser par n'importe qui, mais pas une pute. Pas de pute sur terre, putain, comprends-le. Et tu le comprends certainement.
Le contre-champ nécessaire du personnage incarné par Léo est lié à la présence de deux femmes magnifiques, Véronica et Gilberte, dont le spectateur se demande parfois ce qu'elles peuvent trouver d'attirant et même de sympathique chez lui. Entre le marivaudage classique et le manifeste post-Nouvelle Vague, La maman et la putain reprend la figure du triangle amoureux, deux femmes et un homme. Il en reste à ce dispositif aux infinies possibilités, sans chercher à faire évoluer le récit. Le film se tient à un programme cru et pourtant romantique. Les lieux sont toujours les mêmes, la chambre pour l'intimité, le café pour l'espace public. Dans ces endroits de perdition s'y déploient de longs monologues fascinants dont la verdeur du langage fait encore son effet aujourd'hui. Les protagonistes parlent de cul et de baise en picolant du gibet ou du pernaut, mais se vouvoient aussi, créant alors une distance littéraire. Alors les trois comédiens et comédiennes sont extraordinaires. Ils déroulent un texte au millimètre, appris par cœur, exploit d'autant plus incroyable qu'il tournait en une seule prise, avec bien sûr des répétitions en amont. Françoise Lebrun, qui a des airs de Liane Guiche, incarne une douceur maternelle, tandis que la plus volage et libre Gilberte, incarnée par Bernadette Lafont, serait la putain, chacun représentant symboliquement la France d'hier et celle de demain. Cette lecture métaphorique, un peu schématique, demeure pourtant d'une réelle force narrative, sans avoir besoin de raconter beaucoup de choses. Le film jongle alors entre sa pseudo-posture intello-parisienne, alors que Stache est d'origine prolétaire, il n'est pas du tout un intellectuel à la base, sa vision très directe de la sexualité et un désir de parler d'amour au cœur d'une relation triangulaire fascinante. Alors étiré sur 3h30, 3h27 exactement, bénéficiant de la sidérante photo noir et blanc de Pierre Lhomme, La maman et la putain est une drôle d'expérience, une œuvre à la fois limpide et opaque, très terre-à-terre et pourtant ouverte à de multiples interprétations. Une première vision ne suffit sans doute pas pour déterrer toutes les beautés secrètes d'une histoire d'amour qui navigue entre fiction et réalité, brouillant constamment les pistes.
Me faire encloquer, ça me ferait chier un maximum. Alors, j'ai tant pas besoin de cul pour le faire enlever, pour le faire baiser, il faut en faire un maximum. Faut m'exciter un maximum, rien à foutre. Si les gens pouvaient piger une seule fois pour toutes que baiser c'est de la merde. Et qu'il y a une seule chose très belle, c'est baiser parce qu'on s'aime tellement.
Nous parlions de La maman et la putain, un film de Jean Eustache qui ressort sur les écrans. Il est en salle depuis le 8 juin. Isla Nublar a été détruite. Les dinosaures vivent avec les hommes désormais, mais les relations ne sont pas simples. Jurassic World, le monde d'après, c'est Guillaume qui nous en parle.
Vous avez vu un bon film aujourd'hui ?
Cinérama.
Oui, et j'ai horreur des questions.
Plus rien ne retient le pouvoir de la génétique.
Un petit peu comme la météo en ce moment, on ne sait plus trop sur quel pied danser. Si vous nous écoutez régulièrement, vous devez être au courant que les suites tardives, c'est pas trop notre truc. Entre la volonté paresseuse de faire un décalque en version dessin de ta fille de 5 ans en maternelle d'un premier opus fondateur devenu mythique, fanservice et clin d'œil à tous les étages pour rappeler aux gens que la nostalgie c'est trop cool, et donc prouver sa non-identité et vacuité totale, voire carrément dénaturer complètement le message initial en pensant vouloir ajouter une variation sympathique, ces spectacles sont souvent des catastrophes préprogrammé. Ajoutez à ça l'invention récente du terme « legacy quel », c'est-à-dire le fait de réunir un casting de jeunes avec l'équipe des vieux films, et c'est parti pour du non-cinéma, ce produit qu'on appelle désormais éhontément franchise, et qui malheureusement semble être le parangon de l'industrie américaine sans que cela ne laisse supposer d'une fin bientôt. Alors oui, on ne sait plus trop sur quel pied danser, car la semaine dernière, il y avait bien eu une superbe exception, le cas de Top Gun Maverick, véritable barreau d'honneur d'une star à l'ancienne bien disposée à atomiser la concurrence en faisant plus vite, plus haut, plus fort que tous, à commencer par le film d'origine. Mais vu qu'il n'y a pas Tom Cruise à la tête vide et désespérément creuse de Jurassic World Dominion ou Le Monde d'après chez nous, mais le tâcheron Colin Trevorrow, déjà coupable du premier Jurassic World qui est en fait Jurassic Park 4, vous suivez toujours, il est temps de sortir les Kleenex, non pas pour essuyer la larmichette d'émotion, mais pour se moucher du rhume chopé par le froid sibérien qu'en procure la vision.
Nous avons commis une grave erreur.
L'horloge de l'apocalypse s'est emballée.
Jurassic World, le monde d'après, c'est tout d'abord le rendez-vous ultime foiré, mais à tous les étages. Alors depuis Le Monde perdu en 97, on fantasmait de voir enfin les dinosaures sortir d'un parc et envahir le monde moderne. Spielberg lui-même n'était pas dupe, car c'était à lui et non pas au scénariste à qui l'on devait cet épilogue dans les rues de San Diego en forme d'hommage jouissif à King Kong, le T-Rex remplaçant le primate dans sa destruction de mobilier urbain. Hélas, toi qui entres dans la salle, abandonne ici tout espoir, car si quelques scénettes introductives font illusion, c'est pour mieux nous replonger pendant 1h30 dans un nouveau parc, toujours tellement perfectionné, qu'il va finir par imploser, et oui, encore. Vous aimez le premier film ? Eh bien, on va vous faire revenir le casting d'origine, histoire de vous faire passer la pilule que le scénario, au bout d'un moment, ne s'embarrasse même plus d'une quelconque étincelle d'originalité pour décalquer bêtement, encore une fois, le film de 93 au rebondissement près, quand il n'abuse pas d'incohérences et autres deus ex machina. Mieux encore, épreuve d'un essoufflement que l'on a rarement vu aussi sinistre, même en termes hollywoodiens, voilà que le grand méchant est aussi un revenant du tout premier film. Alors mais attention, pas un personnage fort, non, celui qui apparaît 2 minutes au début. Passé ce grand moment de ridicule qui va s'étendre pendant toute la projection, on ne peut pas dire que le spectacle est particulièrement distrayant parce qu'il a à nouveau été confié à l'analphabète Colin Trevorrow. Alors si le brillant Juan Antonio Bayona n'avait pas pu livrer un film vraiment potable avec l'opus précédent, il avait néanmoins réussi à mettre un minimum en scène un film de monstre qui pouvait, à l'occasion, faire illusion. Dans le cas présent, il est même difficile de se rendre compte qu'on assiste à une projection en IMAX tant il n'y a aucune vie dans les plans, tout statique et resserré à l'extrême.
Pour que notre monde survive, ce qui compte, c'est ce que nous faisons aujourd'hui.
Et enfin, comment ne pas tiquer devant la volonté artistique de parler de tout sauf de dinosaures dans un Jurassic Park et de centrer l'histoire sur un enfant issu d'une immaculée conception génétique se battant contre des hordes de criquets qui dévastent tout. C'est comme si on voulait appliquer une désagréable grille d'interprétation religieuse dans un film qui devrait nous mettre en scène des créatures de la préhistoire. À croire que les Américains ne peuvent pas se passer de Jésus, même 65 millions d'années avant son apparition officielle, et que le créationnisme voudrait absolument triompher de l'histoire, même à coup de forceps dans un univers qui est à l'origine particulièrement étanche. Bref, tournez-vous plutôt vers les carnosaures produits par Roger Corman dans la foulée du premier Jurassic Park. Les dinosaures sont laïcs et au moins, ils bouffent des gens tout le temps.
Jurassic World, le monde d'après, est en salle depuis le 8 juin. Il nous donne l'occasion de jouer à un blind test. Alors, j'aurais pu être pervers et puis faire un blind test sur les films de dinosaures. À vous de reconnaître bien n'importe quel film de Jurassic. Je ne l'ai pas fait. J'ai développé le thème du monstre, le monstre qui n'est pas forcément en sympathie avec l'homme. Voilà, donc il va falloir trouver bien des films de monstres.
Cinérama.
Il est votre sac.
Interview, chronique, blind test et tout le reste.
Est-ce que je suis clair ?
Le principe du blind test, je le rappelle, un extrait, il faut trouver le titre. Et il y a 5 extraits. Premier extrait.
On peut donc croire que ces vapeurs sont provoquées par des gisements de pétrole.
Mais c'est une certitude. Le sol de cette île renferme un gigantesque gisement de pétrole qui attend bien tranquillement qu'on vienne le pomper. Je suis prêt à payer tout ce que j'ai.
Alors je vous le fais à 100 contre 1. L'excès de CO2 peut avoir toutes sortes d'origines. Ça peut provenir, par exemple, d'une respiration animale.
Lumière, s'il vous plaît.
Quoi ? Une respiration animale.
Animale ? Vous êtes fou ou quoi ?
Et qui plus est, je ne suis pas sûr que l'homme ne l'ait jamais foulé, votre île. Tiens, peut-être en 1605 déjà, Pero Fernando de Quieros, qui a dérivé vers le sud venant de Tuamutu, il a écrit dans son journal qu'il a percé le rideau blanc. C'est évidemment le nuage de brouillard. Et qu'il a débarqué sur la plage du crâne.
C'est trouvé, Manu.
C'est King Kong de John Guillermin, oui. Avec Jessica Lange et Jeff Bridges.
Oui, film de 1976. Et d'ailleurs, nous sommes cette année-là, un paquebot d'une société pétrolière navigue à la recherche de la mystérieuse île du crâne. Il s'agit de trouver des gisements de pétrole, mais un scientifique est aussi à la recherche d'une créature hors norme qu'ils vont finir par rencontrer, et c'est King Kong. Un peu plus de 4 millions d'entrées en France. À noter qu'il y a eu 10 adaptations des aventures de King Kong. Là aussi, on pourrait faire un blind test pour découvrir les différents titres. Deuxième extrait de ce blind test consacré aux monstres qui attaquent les hommes.
Je m'appelle Robert Hawkins. Il est 6h, 6h42 du matin. On est le samedi 23 mai. Il y a maintenant peut-être quoi, 6 ou 7 heures environ, une énorme chose à attaquer la ville. J'ai aucune idée de ce que c'est. Si vous avez trouvé ce caméscope, je veux dire, si vous regardez, c'est que probablement vous en savez plus sur cette chose que moi. Ce que je peux vous dire, c'est qu'elle a tué mon frère. Jason Hawkins et mon pote d'enfance, Hudson Platt, et Marlena Diamond, et puis plein d'autres. Nous, on vient de s'écraser sur Central Park. On s'est réfugié sous ce pont, juste là. L'armée est en train de larguer des bombes sur la créature et on est coincé au milieu.
C'est trouvé, Manu.
C'est Cloverfield.
Alors, le petit indice, c'est que c'est un film de found footage, donc une caméra qu'on trouve. Et là, effectivement, c'est quelqu'un qui parle.
Il commente un peu, voilà. Il commente ce qu'il voit. Donc
c'est ça. Donc, film américain réalisé par Matt Reeves et produit par J.J. Abrams. C'était sur une de ses idées. C'est sorti en 2008 et le film relate l'histoire d'un monstre inconnu ravageant la ville de New York dans laquelle Rob Hawkins et ses amis tentent de survivre. 839 000 entrées en France pour ce film, une toute petite production. Autant dire que ça a très bien fonctionné. Troisième extrait de ce blind test consacré aux monstres qui attaquent les hommes.
Où ils sont ? Où ils sont ?
Je les trouverai.
Non, elle était avec moi. Elle était avec moi et je suis allée faire la lessive. Il était avec toi, comment il a...
Effusé.
Il y est sûrement encore.
Oui, c'est sûr.
Et il sait qu'il faut qu'il t'attende. Et elle, elle est... Elle est intelligente, elle a dû trouver un endroit.
Ils savent quoi faire.
Alors, ça n'a pas été trouvé ici en studio. Peut-être que vous avez trouvé, vous, du côté de votre poste de radio. Alors, pour donner un indice, ce qui est important, et j'aurais peut-être dû le dire avant de diffuser l'extrait, c'est que là, en l'occurrence, il y a le son qui est quand même assez différent.
C'est sans un bruit.
Oui, c'est ça. Là, c'est un dialogue. Il y aurait pu avoir le bruit de la pièce. En règle générale, d'ailleurs, dans plein de séquences de cinéma, on entend le bruit de la pièce. En l'occurrence, là, il n'y a quasiment pas de bruit de la pièce. Puisque c'est le film Sans un bruit, Quiet Place, en version originale, de John Krasinski, sorti en 2018 avec Emily Blunt. Nous sommes plongés dans un monde post-apocalyptique où l'arrivée de super prédateurs a eu raison de la majeure partie de la population humaine et animale. Et puis les rares survivants vivent sous la menace de ces créatures qui sont ultra sensibles au son. Donc voilà, ils sont obligés de tout camoufler. Et c'est pourquoi, même quand ils parlent, c'est un peu...
Je conseille la suite qui est supérieure au premier. Ce qui est pas rarement le cas, en fait, qu'un 2 soit meilleur, je la conseille.
Hein. Oui, mais je dirais qu'il faut voir le 1 et le 2. Et ce qui est assez amusant avec ce film, qui a réuni 647 000 entrées là, pour le premier opus, c'est que le deuxième opus a fait 647 000 entrées, donc 1000 entrées de moins, ce qui supposerait que les mêmes personnes soient retournées ou je ne sais quoi. C'est assez étrange. Donc, nous parlions de Sans un bruit, quatrième extrait de ce blind test consacré aux monstres.
Regardez, les organes sont parfaitement formés. En bon état de marche. Je ne suis sûr de rien, ce n'est pas là un spécimen complet, mais...
Vous croyez que c'est quoi ?
Cette chose n'est pas le fruit d'une mutation fortuite. Elle est de la classe la plus évoluée de son espèce. C'est un soldat, un formidable tueur. Qu'il se soit développé tout seul est impossible. Il fait partie d'une colonie.
Très inquiétant, et c'est trouvé.
Mimique de Guillermo del Toro,
film
de 97.
C'est ça. Pour juguler une épidémie propagée par des insectes, le docteur Susan Tyler et son mari manipulent le code génétique des petites bêtes, créant ainsi une génération de clones qui détruit ses congénères. Et 3 ans plus tard, le remède a donné vie à une espèce mutante qui habite dans les sous-sols de la ville. Et ces insectes ont maintenant la taille de l'homme et sont dotés d'un système de camouflage naturel, le mimétisme. 316 000 entrées en France seulement pour ce film, Mimique. Dernier extrait de ce blind test. Je l'avais déjà donné pour un autre blind test. C'est très important. Là, c'est exclusivement sonore. J'espère que vous aviez mis le Dolby Surround. C'était donc...
C'est Godzilla.
Oui, c'était le cri de Godzilla et le cri de la créature de 2014. Des monstres sont réveillés par des essais nucléaires dans le Pacifique au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Alors là, des Godzilla, il y en a eu des trentaines et des quarantaines ou des cinquantaines peut-être. Voilà, 1,3 million d'entrées en France pour ce film. Ainsi s'achève le blind test consacré aux monstres au cinéma, enfin aux grosses bêtes on pourrait dire, puisque nous parlions du dernier film de la saga Jurassic World. Sans transition, au Kosovo, une femme tente de monter sa petite entreprise en luttant contre le patriarcat et non pas contre des bestioles. C'est la ruche.
J'ai quelque chose à dire.
Cinérama.
Mais tâchez de faire vite.
Premier long métrage de Blerta Bacholi, hein, la ruche raconte l'histoire d'une tentative de création d'une petite une PME hein, par un groupe de femmes qui doit faire face à l'hostilité des hommes. L'action se déroule à la fin de la guerre du Kosovo dans un petit village. Farage. L'héroïne, hein, dont le mari est porté disparu pendant le conflit, s'occupe des ruches pour subvenir à son entourage. Elle décide donc de monter une petite société fabriquant des conserves à base de miel en employant des veuves de guerre. Alors l'entourage hein, masculin, même au sein de sa famille, n'accepte pas la concurrence, remettant en cause des valeurs patriarcales de domination. Alors inspirée d'une histoire vraie, la ruche coche toutes les cases du film à sujet, remportant logiquement un certain nombre de prix, hein, dont 3 dans la catégorie cinéma du monde au festival de Sundance, et puis l'Antigone d'or au Cinémètre de Montpellier. Le formatage de la mise en scène obéit au canon d'un certain cinéma d'auteur contemporain. On y retrouve sans surprise une caméra tremblotante ne connaissant pas les vertus du plan fixe, une galerie de personnages mêlant comédiens professionnels et autochtones jouant leur propre rôle, une photo naturaliste dénuée du moindre effet, un récit linéaire très peu spectaculaire et une affectation pour la lenteur comme principe, non esthétique mais politique. L'agacement pourrait être total devant ce produit bon teint, politiquement correct et destiné à un public international, mais de bonnes idées remettent parfois le film sur les rails et relancent l'intérêt que l'on peut y porter. Dans sa forme documentaire, au sens informatif, le film parvient à surprendre, notamment lorsqu'on apprend à quel point le fait que les femmes puissent travailler et même conduire, et surtout, je dirais, des voitures, pose un problème aux hommes, pourtant en sous-effectif depuis les nombreuses pertes à la guerre. Alors par ces détails, le film gagne des points. À retenir aussi, Yilka Gashi, parfaite dans le rôle de Farage, cette femme combative que rien ne dévie de sa route. Grâce à sa présence, la ruche ne manque pas d'incarnation et permet parfois d'en oublier les défauts flagrants d'une chronique sociale assez peu captivante. Et alors je ne vais pas dire sans grand intérêt, mais un peu qui ressemble à beaucoup de films de ce genre, en fait.
Donc, La Ruche est en salle depuis le 8 juin. On termine cette émission avec un film d'animation et nous sommes au Japon. On suit l'histoire de Nikuko et sa fille. C'est La Chance sourit à Madame Nikuko.
À quoi sommes-nous confrontés ?
Cinérama.
C'est quoi, c'est une blague ou quoi ?
Nos vies antérieures. Si on a vraiment des vies antérieures, je me demande à quoi pouvait ressembler celle de Nikuko.
Après Les Enfants de la Pluie, Ayumu Watanabe revient toujours dans le domaine de l'animation, mais pas forcément avec le sujet le plus simple qui soit à traiter. La Chance sourit à Madame Nikuko hein, se joue sur une gamme bien différente des mastodontes du studio Ghibli ou des films de Mamoru Hosoda. Qui est cette Madame Nikuko du titre ? Eh bien, c'est une mère célibataire, particulièrement bien en chair, et surtout une montagne de gentillesse. Son appétit des choses simples et des nourritures terrestres l'ont amené à avoir une vie sentimentale catastrophique, les hommes de sa vie l'ayant tous abandonné après avoir profité de ses charmes et de son compte en banque. Après de nombreuses péripéties, elle décide de stopper son périple et de s'installer dans un petit village de pêcheurs enneigés, usé par la route et les expériences négatives, et trouve un travail dans un restaurant traditionnel. Sa fille Kikurin, à qui la compare à Totoro, hein, est quelque peu blasée d'avoir un tel modèle maternel et tente de vivre elle aussi sa vie comme elle le peut. Un jour, elle découvre Dalicia, hein, une voyante qui a une émission de télévision et dont la spécialité est de révéler aux gens leurs vies antérieures. Kikurin hein, voit l'occasion de se poser la question de ce que sa mère a bien pu vivre précédemment pour avoir une vie aussi dure à l'heure actuelle. Pour ce faire, elle sera aidée par Ninomiya, un garçon mutique de sa classe qui lui plaît, quand bien même ce dernier ne sait faire que des grimaces affreuses quand on ne le regarde pas.
Cette drôle de bonne femme passe beaucoup à la télé en ce moment.
Ouais, t'as raison. Elle est invitée dans toutes les émissions.
Elle s'appelle Dalicia et ses prédictions sont toujours justes.
Je crois surtout qu'elle raconte n'importe quoi.
L'autre jour, un homme est venu et elle a dessiné le visage de son père décédé. Ça lui a pris du temps et c'est sans doute pour ça qu'on ne l'a pas vu en direct. Mais à la fin, c'était son portrait tout craché, comme si elle l'avait recopié.
Ça te paraît pas étrange ?
Elle a des pouvoirs.
Mais non, tout ça c'est truqué. Elle a aucun don de voyance.
Moi, je la trouve fabuleuse.
Pense ce que tu veux.
Kikurin, tu dis quoi en ce moment ?
Un roman de Salinger.
Salinger ? On dirait le nom d'une unité de combat. Je parie que c'est écrit tout petit. Parce que t'es intelligente.
Racontée par Kikurin, l'histoire de La Chance sourit à Madame Nikuko est avant tout mélancolique. L'intention est résumée dans une scène forte hein, où Nikuko fredonne la vie en rose jusqu'à ce que sa fille lui dise que cette chanson est supposée être triste et non pas joyeuse. La quête de Kikurin va bien évidemment lui permettre de mieux comprendre sa mère et de voir ses deux portraits atypiques de femmes trouver des résonances bien plus fortes que prévues. Entre chronique sociale et merveilleux, Watanabe réussit un joli mélange des genres à partir de son pitch improbable que l'on aurait peut-être vu plus adapté à un Ken Loach, mais qui sait en dire beaucoup sur un certain Japon méconnu de l'Occident.
La chance sourit à Madame Nikuko est en salle depuis le 8 juin.
Au revoir.
Au revoir.
Au revoir. Mais pour quelle raison ?
Eh bien voilà, on s'est tout dit.
Ah bon ?
Qu'est-ce que vous racontez ?
Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ?
C'est difficile de répondre, comme vous êtes bizarre.
C'est une plaisanterie !
Après la reprise de La Maman et la Putain dans cette émission, eh bien la semaine prochaine, ce sera Le Pacte des Loups. Mais on aura d'autres films.
Oui, je tremble au Matador, et puis le nouveau film d'Alex Garland, Men.
Et puis, eh bien, moi je vous parlerai de Incroyable mais vrai, le dernier, Quentin Dupieux. À la semaine prochaine.